Nous sommes en train de regarder une série d'études sur les différentes positions qu'on a acquises, pas parce qu'on les méritait, mais ça nous a été donné en Jésus lorsqu'on est né de nouveau. Lorsqu'on est venu à Jésus, en partant, on ne méritait rien, mais le fait qu'on accepte Jésus dans notre vie, avec repentance, bien entendu, avec le désir de vouloir changer de vie, c'est le vouloir d'être se convertir, mais le Seigneur te pardonne tes péchés. Puis là, il donne le Saint-Esprit. Puis là, il y a un paquet de nouveaux changements qui se passent dans ta vie. Ça dit, tu es une nouvelle créature. Avant, tu étais Daniel Poulain, la version originale, créé charnel, puis avoué que de nature de péché, puis avec, qui ne méritait rien, etc. On l'a vu dans d'autres études. Mais quand tu viens à Jésus, tu es une nouvelle création. Là, le Saint-Esprit en toi t'équipe et te donne automatiquement plein de nouveaux statuts que tu obtiens en te convertissant. Puis nous sommes en train d'en regarder un autre statut qu'on a reçu en Jésus aujourd'hui. Nous sommes, grâce au Christ, parce que c'est toute grâce au Seigneur, devenus des héritiers de Dieu. À cause qu'on a passé par la nouvelle naissance, on a vu plein de nouveaux statuts, puis il en reste encore quelques-uns à voir. Aujourd'hui, on va voir qu'on est devenu héritier. Puis ça, c'est un titre qu'on a déjà, c'est acquis, nous sommes des héritiers de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un héritier? Un héritier, c'est quelqu'un qui hérite. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui avait acquis beaucoup de choses, mettons si on le prend sur le point de vue humain, il décède, puis dans son testament, il écrit « Je cède telle affaire à tel héritier, telle affaire à tel héritier ». Puis des fois, il y a des conditions, mais l'idée d'être un héritier, c'est celui qui est le récipiendaire, celui qui reçoit les cadeaux ou les dons ou tout ce qui appartient à l'autre, en partie ou en totalité. Mais vous êtes, en Jésus, des héritiers. Vous avez déjà, à cause de Jésus, une position qu'un jour vous allez recevoir, déjà vous avez reçu, et vous recevrez tout ce que Dieu a à vous donner. Oui, parce que c'est vraiment extraordinaire. On n'avait rien avant de connaître Jésus. Savez-vous que Dieu, dans sa grande générosité, a déjà prévu de donner tout ce qu'il a créé? On va le voir avec les versets qu'on va voir tantôt. Dieu a créé tout cela pour un but. Il voulait bénir du monde. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il nous aime. Il est clair que c'est pas tout le monde qui sont héritiers, parce qu'il y a des conditions pour le devenir, mais quand tu l'es devenu, tu es en attente de quelque chose de grandiose. Le Seigneur, au début de la création, il avait établi l'homme pour gérer sa création. Avec Adam et Ève, il est en Genèse 1:28, Dieu les bénit, leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. » Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a tout mis sous les pieds de l'être humain. Puis là, l'être humain, on a vu qu'est-ce qu'il en a fait. Malheureusement, ils ont désobéi à Dieu, obéi au diable. Puis là, le diable a influencé grandement dans la méchanceté, la destruction, mais un contrôle. Parce que là, ça nous disait, il était pour dominer sur la mer, les oiseaux, puis tout animal, mais pas nécessairement sur les humains, puis de s'en servir à mal faire, puis à détruire, puis à faire des guerres, puis à tuer du monde. Ça, c'est comment ça l'a dérivé. Mais c'était pas le plan initial de Dieu. Mais une chose qu'on remarque dans ces versets-là, c'est que Dieu, il avait permis à l'homme de jouer pleinement de toute la création. Puis il avait comme une liberté de faire des choses, mais Dieu s'attendait à ce que l'homme fasse du bien entendu, mais il s'en est servi pour mal faire. Ce qu'on comprend aussi, c'est que l'homme, l'être humain, Adam et Ève et toute sa descendance, étaient les gérants de ce qui appartenait à Dieu et non les propriétaires. Ils devaient gérer la création qui appartenait à Dieu et non pas que ça devenait leur propriété. Dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2, Dieu nous a présenté dans ces deux versets-là qui était l'héritier de toute chose. Il n'a pas donné sa création à l'homme, il a dit qu'il pouvait la gérer. Mais à qui était destinée cette création-là? Le but de Dieu était de donner ça à qui? À qui? Exact. Hébreux 1, 1 et 2. Ça nous dit, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Voyez-vous, dans ces deux versets-là, ça rajuste le tir pour nous dire à qui appartient cette planète. Elle appartient pas au diable. Même si le diable a offert à Jésus la gloire de ce monde, mais il a pas offert le monde. Le monde lui appartient pas. C'est juste la gloire de ce monde qui a été donnée par l'homme à Satan. Puis là, le diable en profite pour se glorifier dans le monde. Mais ça, la gloire, le diable l'a offert parce qu'il dit ça, ça m'a été donné, puis je la donne à qui je veux. Fait que la gloire de ce monde, c'est le diable qui la gère. Mais la planète, les corps humains, tout ce qui est de la vie, les animaux, etc., puis même l'univers entier, appartient à Dieu. Puis il a décidé de donner en héritage toute sa création à son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le propriétaire de tout. Amen, gloire à Dieu. Puis c'est Jésus qui l'a créé, ce monde, ça nous dit dans ce verset-là, et par lequel qu'il a créé le monde. Fait que Dieu le Père s'est servi de Jésus, ils ont créé toute chose, puis de but, c'était pour le donner à Jésus. Fait que l'ensemble de l'humanité, en théorie, si on regarde cette idée-là, devait vivre pour Jésus. Élever Jésus et glorifier Jésus. Pour l'être humain, l'on continue l'analyse avec différents versets, le seul héritage que nous avions, nous, ce qu'on avait en possession réelle, parce que là, tout appartient à Dieu, notre seul héritage que nous avions était l'égarement et la rébellion qui nous menaient à la perdition. C'est qu'Adam et Ève, en tombant dans le péché, ils ont désobéi, ils ont reçu des malédictions de Dieu, ils ont été chassés du paradis, privés de l'arbre de vie, ils étaient tombés morts spirituellement, déconnectés d'avec Dieu, puis ils ont été chassés puis dans un sol qui avait été maudit par Dieu. Puis ils devaient travailler à la sueur de leur front, puis etc., toutes les malédictions qu'ils ont reçues. Puis nous, on a hérité de la malédiction d'Adam et Ève. C'est la seule chose qu'on a hérité. Des fois, on se pense qu'on c'est à nous. On n'a rien. Tout ce qu'on a de père en fils, de génération en génération, comme nous le dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, nous tous, nous étions de leur nombre, des gens de ce monde qui vivent dans le péché. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tout le monde dans l'humanité ont hérité de la vaine manière de vivre qu'ils ont hérité de leur père, de père en fils, en génération en génération, on se transmet des idées de rébellion, de méchanceté, de destruction, de mal. Des fois, on se vante avec ce qu'on a, mais en réalité, on n'a rien à nous. Tout appartient à Dieu. Dieu nous prête temporairement ce que nous avons. Il nous prête la vie, il nous prête les biens, il nous prête une épouse, il nous prête des enfants, il nous prête notre travail, nos capacités pour atteindre notre travail. Il nous prête. Tout appartient à Dieu en tant que propriétaire, créateur. voyez-vous. Dans l'histoire humaine, l'homme a toujours cherché le contrôle. Contrôler les autres, contrôler même sa propre vie, sa destinée, faire ce qu'il aime, faire ce qu'il pense, ce qu'il veut. C'est de même, tout le monde est comme ça. En dominant souvent, puis en écrasant les autres. Les hommes ont comme dans leur nature de péché qui ont irrité d'Adam et Ève, le désir d'assouvir leur passion, puis de marcher dans rébellion contre Dieu. Le réflexe humain, parce que l'ensemble des humains qui étaient là au temps de Jésus, là, le réflexe humain qui découle de la nature de péché, mais au temps de Jésus, elle existait, la même chose que qu'est-ce qu'on ressent quand on est livré à nous-mêmes, puis qu'on marche dans le péché. Mais les gens du temps de Jésus étaient animés de cet esprit de rébellion-là, puis de méchanceté. Puis, le premier réflexe qu'ils ont eu quand ils ont vu Jésus, qui était l'héritier, ils ne comprenaient pas tout ce qui est en train de se vivre, là, mais la réaction, Jésus l'a expliqué dans une de ses paraboles, la parabole du vigneron, quand il dit que Dieu... Pas celle-là, il dit, Dieu il a établi un vigneron, c'était à lui le vignoble, toutes les vignes, puis il avait établi des gens pour gérer tout cela. Puis au temps de la récolte, il envoie ses serviteurs pour aller chercher le produit de la vigne. C'était normal que Dieu aurait récolté, c'était à lui la vigne. Puis les gens sont mis à battre les serviteurs, puis à les renvoyer à vide. Là, il dit, non, là, je vais avoir ce qui me revient, mais il a envoyé son fils dans sa vigne. Puis là, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va le lire dans Luc 20, le verset 14. Mais quand les vignerons le virent en parlant du fils, le fils, c'est l'héritier, celui à qui appartenait tout ce qui était là, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le. « Afin que l'héritage soit à nous. » C'est ça le réflexe humain. Tassons-le, c'est lui l'héritier, c'est Jésus qui est le fils du propriétaire. Par la force, par la méchanceté, ils ont tué Jésus, puis ils l'ont tassé pour prendre le contrôle de tout ce qui appartenait à Dieu. Dieu, dans sa bonté, c'est sûr que Dieu voyait tout ça d'avance, mais il s'est servi de cet événement-là, puis là-dedans, on voit la grandeur de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu, malgré la méchanceté des gens qui étaient là, puis qui ont tué son fils, c'est sûr que Dieu est en colère. Il ne faut pas penser que Dieu rit de ça. Il est en colère, puis un jour, la colère de Dieu va tomber sur les méchants, sur les gens qui se rebellent à son autorité. Tout ce qui est là dans cette vie appartenant à Dieu, puis toute la gloire de ce monde aura dû revenir à Dieu, puis que tout le monde marche en glorifiant Dieu, puis vivant pour Dieu, servant Dieu, travaillant pour Dieu, en portant du fruit pour Dieu, ça aura dû être automatique. Puis là, quand ils ont vu le Fils, ils l'ont tué. Ils s'en ont débarrassé pour pouvoir prendre tout ce qui était en réalité passager pour chacun d'eux. Dieu a changé cela dans son amour, c'est ce que m'en allais vous dire. Dieu il a démontré son amour parce qu'il avait prévu que les gens réagiraient comme cela. Puis il s'est servi du sacrifice du Fils pour s'en servir pour les sauver. Le diable lui pensait de bien faire quand il a fait assassiner Jésus. C'est là qu'on voit aussi que le diable n'a pas toute connaissance comme Dieu. Il n'a pas les attributs de Dieu. Il voit au fur et à mesure les choses se dérouler. Parce que si le diable aurait eu toute connaissance, il aurait laissé Jésus mourir de vieillesse, puis il n'y aurait personne qui aurait été sauvé. Si c'est arrivé comme ça, c'est parce qu'il ne voyait pas plus loin que l'événement présent. Puis pour lui, c'était... On s'en débarrasse, tuons le Fils. Il a incité dans le cœur des gens de livrer Jésus, de l'emmener puis de le crucifier, puis de faire crier, de le mettre à mort. Maintenant, à cause de l'œuvre de Jésus, Dieu a décidé de partager l'héritage de Jésus. C'est fort, parce que tout c'est lui qui est l'héritier, puis tout lui appartient. C'est lui le propriétaire, puis Jésus aurait pu tout garder pour lui, puis dire, arrangez-vous avec vos troubles, mais ce n'était pas le cœur de Jésus. Il nous aime. Il ne veut pas qu'on finisse comme ça. Mais Dieu a décidé dans son plan de partager. Il est encore bien plus grand que la méchanceté des hommes à son égard. Il a dit, je vais encore donner une chance à ce monde-là, puis je vais même en plus de ça, lui partager l'héritage de mon Fils. Selon un plan que Dieu a décidé lui-même. C'est pas les humains qui décident du plan comment je deviens héritier. Quand moi, j'ai été voir le notaire, puis j'ai rempli le testament, j'ai été voir le notaire a écrit ce que je lui ai dit. C'est pas le notaire qui a décidé, c'est pas mes enfants qui ont décidé qu'est-ce que je mets dans le testament. L'héritage, c'est le propriétaire qui décide qu'est-ce qu'il donne à un, qu'est-ce qu'il donne à l'autre. Fait que j'ai décidé ce que je donnais à mes enfants. Mais c'est la même chose avec Dieu. C'est pas les humains qui décident qu'est-ce qu'ils vont prendre, puis qu'est-ce qu'ils vont choisir, puis de quelle façon je vais obtenir. Dieu a fixé les règles. Ces règles-là sont écrites dans son testament. Et où son testament? C'est le Nouveau Testament, la nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes. Là-dedans, on a toute la révélation du testament de Dieu. Puis son héritage, c'était tout écrit, détaillé, avec les conditions. Puis ça détaille aussi ce que nous obtiendrons, ce qu'on va hériter, puis de quelle façon qu'on va les hériter. Dans 1 Pierre 1,18, ça nous dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, puis manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Voyez-vous? Dans ce verset-là, ça nous explique clairement que c'est Dieu qui a prédestiné, avant la fondation du monde, de nous rendre bénéficiaires de sa création. C'est lui qui a fixé les règles depuis le début, qui enverra son Fils dans le but, justement, de nous racheter. C'est pour ça que quand, dans la parabole du vigneron, c'est pas un hasard que le Fils est allé là. Il est envoyé pour aller chercher le fruit de sa vigne, puis c'était prévu d'avance qu'il était pour se faire rejeter et tuer. Mais Dieu se servait de cet événement-là afin que le Fils, quand il a versé son sang, puisse sauver des gens, certaines personnes, pas tous, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, il y a des gens qui vont devenir, à cause du sang de Jésus, bénéficiaires de l'héritage de Dieu le Père. La Bible nous dit que lorsqu'une personne reçoit le Christ, il naît de nouveau. Il est une nouvelle créature, mais automatiquement, tu deviens enfant de Dieu, on l'a vu dans les autres leçons, puis automatiquement, tu deviens un héritier de Dieu. Dans Galates 4,7, ça nous dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Puis si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Je suis un héritier, vous êtes des héritiers. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel sont devenus héritiers. Ça vous fait-tu du bien? Il y a de quoi de gros qui s'en vient. Il y a de quoi de gros qui s'en vient. Déjà, on a des choses en Jésus. Déjà. Mais même qu'on arrive l'autre bord, on ne créera pas nos yeux puis nos oreilles. Ça va être extraordinaire. Les véritables héritiers de Dieu le sont par la foi. Pas la foi en n'importe quoi, la foi dans le Fils, la foi en le sacrifice de Jésus. Dans Romains 4,16, ça nous dit c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité. Si Dieu aurait dit, vous allez être héritier, mais il faut payer 100 000 piastres chaque. Où est-ce que j'aurais pris 100 000 piastres? Quelques-uns auraient peut-être pu se le payer. Ça n'aurait pas été accessible à tous. Mais Dieu, il a fait ça d'une façon extrêmement sage pour rendre ça accessible à tout le monde. Et il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que, il a rendu ça accessible par la foi. Croire. Avoir l'assurance qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Si tu as l'assurance, puis tu veux l'avoir, tu lui demandes pardon, puis tu lui demandes d'entrer dans ta vie, puis ta vie commence à changer. Il va te changer. À partir du moment que tu le laisses entrer, le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu es une nouvelle créature, puis tu viens de tomber d'un paquet de statuts que tu n'avais pas avant, mais que tu viens d'obtenir comme un d'entre les autres, c'est d'être un héritier. Son héritage t'attends. Tu fais partie de ceux qui vont hériter. Gloire à Dieu, il faut se réjouir de cela. Peut-être que vous n'avez pas eu d'héritage de votre père et de votre mère. Mais c'est pas grave. Ce n'était pas la plus importante. La seule qu'il ne faut pas manquer, c'est l'héritage de Dieu, notre Père. Ça là manque-là pas. Il l'a promis, c'est là sur papier dans le testament. Remplis les conditions, puis tu vas faire partie des héritiers. Amen. Il dit, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, afin que tout le monde puisse avoir accès à cela. Que ça soit pas que tu nous demandes de quoi d'impossible, c'est pas si impossible que ça, de décider de croire, puis de le prendre par la foi. Il dit non à la postérité, tu vois, bon, puis au verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Parce que Jésus, il se fait pas enlever tout son héritage pour la donner aux autres. C'est qu'on hérite avec lui de ce qui appartient à Jésus. On l'a vu un peu la semaine passée, on va se marier avec Jésus. On est l'épouse. Normalement, l'épouse profite de tout ce que l'époux a. À moins que vous ayez un mari tyran, puis qu'il vous mette des locks, il mette des barrières après les armoires pour pas que vous mangez pendant qu'il est parti. Mais ça, j'espère que vous n'êtes pas dans cette condition-là. Mais théoriquement, dans le mariage, on se partage tout ce qu'on a. Dans ce verset-là, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Là, il y a une petite condition. Il y en a plusieurs conditions qui sont écrites un peu partout dans la Bible. Persévérons. Gardons demeurons dans le chemin resserré qui mène à la vie. Gardons le cap. Marchons dans la foi, persévérons jusqu'à la fin. Il y a plein d'idées qui sont là, comme là, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Si on rejette, moi c'est trop dur d'être chrétien, je laisse tomber, puis je m'en retourne dans le monde. On vient de perdre l'héritage. Il ne faut pas renier Jésus. Il faut rester dans la foi, puis persévérer à travailler pour lui. Amen. Qu'obtenons-nous comme héritage? Il y a certains versets qu'on est habitué des entendre, mais on se les rappelle en cas qu'il y ait des nouveaux qui écoutent les messages. Mais toutes les choses qui sont dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu a donné, veut donner, c'est aux héritiers. Si tu es un héritier, écoute attentivement, c'est tout à toi, puis c'est juste comme un quelques mots qui nous parlent de certains sujets, mais il y en a des sujets qu'il faudra approfondir, puis il y a des sujets qu'on peut même pas approfondir parce qu'on n'a pas toute la révélation de Dieu, de voir l'étendue, la portée de toutes ces promesses-là. Il y a quelques-unes de ces promesses qui sont quand même faciles à comprendre. Mais pour les comprendre, parce que c'est pas automatique de comprendre l'héritage de Dieu, puis tout ce qu'on a comme richesse donné par Dieu, tout ce qui nous attend. Puis là, l'apôtre Paul, dans le temps de son ministère, il priait pour les disciples du Christ afin que tous puissent grandir dans la compréhension des riches bénédictions de leur héritage. Parce que c'est pas automatique au monde de comprendre ce qu'on a eu. C'est tellement profond, c'est tellement riche, puis même des choses, c'est dans le monde invisible. Faut y aller par la foi pour comprendre. Puis là, l'apôtre Paul disait aux Éphésiens que lui priait, l'apôtre Paul priait pour les gens d'Éphèse, pour que les gens grandissent dans le Seigneur, puis qu'ils puissent approfondir tout ce qui en est de ces promesses-là, qui étaient pour le recevoir. On lit ça dans Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 18. « Et je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. » C'est important qu'on grandisse dans sagesse, mais dans connaissance. Connaître ce que Dieu a pour nous. Là, il dit, il priait pour cela, pour que les autres, leurs yeux s'ouvrent, puis qu'ils puissent connaître c'est quoi ces promesses. Parce que quand tu le sais, ça t'aide à persévérer. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On était appelé, oui, mais il y a une espérance. On espère en quelque chose de grandiose. Il dit quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a une richesse de la gloire. Ça va être glorieux, qu'est-ce qu'on va vivre. C'est dur à comprendre quand on est habitué de vivre dans une petite rue de Beauharnois, avec une maison bien ordinaire, puis avec un vieux bazou, puis toujours des problèmes ici, des problèmes là. Connaître le trip de la gloire. On n'a jamais été des rois pour savoir c'est quoi d'être glorieux. Mais il nous dit que Dieu vous rouvre les yeux pour comprendre c'est quoi la richesse de la gloire qu'il a réservée pour ses saints. C'est nous, ces saints. Notre prochaine vie. Dans cette vie-ci, il y a des avantages qu'on a, mais ça va être quelque chose de grandiose qui nous attend. En étant un saint, Dieu il a en réserve son héritage pour ses saints. Ça va être quelque chose de glorieux. Et mais qu'on soit rendu là, on va être excité quelque chose de rare. Oui, gloire à Dieu. Et moi aussi. Pour en regarder quelques-uns des points. Mais premièrement, nous obtenons, premièrement, d'être déclarés justes à cause de notre foi. Ça, là, parce que sans être déclaré juste, ça, c'est un cadeau de Dieu, ça fait partie de l'héritage. Tu reçois un cadeau en partant, il te déclare juste. Malgré que tu es un pécheur puis tu as une montagne de péchés dans ta vie, Dieu décide de te pardonner puis de te faire grâce, puis que tu n'aies pas de conséquences de ce que tu as fait dans le passé. Il te pardonne puis il te déclare juste. Ça commence là. Il fallait passer par être justifié pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'aura pas rentré en nous puis habitant en nous si on était dans cette pile de péché-là. Il fallait qu'il l'efface, qu'il remette notre dette, notre compteur est retombé à zéro. Là, il a pu rentrer, parce que Dieu est trois fois saint. Dans Hébreux 11, 7, ça nous dit, c'est par la foi que Noé était averti des choses qu'on ne voyait pas encore, puis il était saisi d'une crainte respectueuse. Il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. À cause de notre foi, la première chose qu'on a héritée, c'est d'être justifié. Ça l'a été pour lui, comme c'est la même chose, la justice s'obtient par la foi. Il y a plein de passages dans le Nouveau Testament qui en parlent. C'est le commencement de notre héritage. Merci Seigneur. Puis demeurons justes. On l'a prêché ça, au début de la série de comment obtenir la justice. On a vu les conditions, puis on a vu aussi qu'après ça, c'est à notre devoir de rester juste, puis de rechercher la justice. Puis c'est important, faut pas se laisser aller, puis abandonner notre poursuite de la justice, parce qu'on retourne dans le monde. Deuxième beau point que Dieu nous donne, nous irritons la vie éternelle. Dans Tite 3.7, ça nous dit, « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre notre âme qui est immortelle puis d'avoir la vie éternelle. Parce que le fait que Dieu nous a créés immortels, l'âme est immortelle dans un sens. Là, je parle pas que dans le sens spirituel, c'est dans le sens de l'état que notre âme vit tout le temps. Même lorsqu'on quittera ce monde, que tu sois chrétien ou non, tu vas sortir de ton corps, tu vas être pleinement conscient que tu es sorti de ton corps, puis là, il y a des anges qui vont t'emmener dans un endroit. Tout dépendant si tu es mort pardonné ou si tu es mort dans tes péchés. Il y a des endroits différents à l'autre bord. Ton âme n'arrête pas de vivre. Puis ton âme, pour ceux qui ne le comprennent pas, pour vous aider à comprendre, on parle pas du sang, on parle de l'état d'être d'esprit conscient. Vous êtes conscient, vous êtes dans votre corps. Si vous n'êtes pas conscient, vous viendrez me voir après, je vais vous en parler. Si vous êtes conscient d'être vivant, c'est signe que vous êtes vivant. Vous sentez que vous êtes dans votre corps, vous êtes là, vous êtes content d'être là. Mais quand vous allez mourir, le corps va tomber à terre, puis vous allez être encore conscient que vous êtes là. Ça, c'est l'état de vie qu'un âme est immortel. Mais ça ne veut pas dire que l'âme a la vie éternelle. Ça, c'est pas pareil. Quand on parle d'avoir la vie éternelle, ça, c'est le fait de, premièrement, d'être venu à la vie. Parce que notre âme devant Dieu, en partant, est morte. Notre âme est morte, est séparée d'avec Dieu. Fait que pour avoir la vie, il faut que Dieu revienne en contact avec ton âme pour que ton âme devienne vivante. Ça, ça se fait à la nouvelle naissance, quand tu nais de nouveau. L'Esprit de Dieu entre en toi, il te ressuscite. Ton corps est encore le même corps qu'avant, sauf ton âme a été régénérée, tu es ressuscité. Il y a un changement qui a commencé dans ton être intérieur. Ton âme a été ressuscitée. Puis là, ton âme qui était immortelle, mais elle n'était pas éternelle. Mais le fait que tu reçoives Jésus dans ta vie, puis tu reçois le Saint-Esprit, tu es rendu vivant. Ton âme est vivante, puis si tu meurs, tu t'en vas dans un endroit avec les vivants. Il y a un autre verset qui dit, on va voir Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume de Dieu. Puis quand il nous parle de cela, dans un autre verset, il nous dit, pour eux, Dieu, là, ils sont vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il y a des gens qui ont été ramenés à la vie spirituellement parlant, leurs âmes est ressuscité, ils sont vivants à cause de la présence de Dieu en eux. Faut que tu naisses de nouveau, sinon tu peux pas entrer dans le royaume. Naître de nouveau, c'est naître. Tu viens au monde, tu es vivant. Avant ça, tu étais mort, voyez-vous. Tu nais de nouveau, puis il n'y a pas d'âge pour cela, en autant que tu as la foi que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, tu l'acceptes avec repentance, il te pardonne tes péchés, puis tu viens de ressusciter, tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier de la vie éternelle. Cette vie sans fin dans la présence de Dieu, ça va être extraordinaire. Là, plus tard, Dieu va nous ressusciter, il va nous donner un corps qui va nous permettre d'autres choses. Mais en attendant, l'idée, c'est de comprendre qu'on est devenu héritier de la vie, de vivre en communion avec Dieu, de vivre éternellement. Amen! Amen! Gloire à Dieu! Un autre beau point que nous avons en Jésus, à cause qu'on est né de nouveau, nous avons aussi un héritage réservé dans le ciel. À part de ce qu'on a commencé à vivre, il y a de quoi, là, à quelque part dans le ciel, ça nous dit dans ce verset-là, je vais vous le lire, 1 Pierre 1:4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ça, quand c'est réservé, vous savez ce que ça veut dire? C'est une réservation. Avez-vous déjà pris des réservations pour prendre l'avion pour aller à quelque part? Vous avez réservé aussi le motel. Mais d'avance, c'est déjà payé, puis là, tu sais qu'il garde ça pour toi. C'est ta place, ton nom est écrit quasiment à la porte, puis ça l'attend que tu arrives. Puis quand tu arrives, tu sors de l'avion, puis il te donne des couronnes pour que tu te mettes à danser. Tu es content d'être dans ton pays chaud, puis de profiter de ce qui est réservé pour toi. Mais ce qui se passe présentement, c'est à cause qu'on a accepté Jésus. Il y a des réservations qui sont écrites dans le ciel. Une part, un héritage, il y a un lot. Puis là, Dieu il dit, touchez pas à ça, ça appartient à Marie-Chantal. Ou tout. Touchez pas à ça, ça appartient, nommez vos noms. Dieu vous a réservé un héritage dans le ciel. Ça l'attend juste le moment qu'on y aille pour aller chercher, pour entrer dedans, dans notre héritage. Puis Dieu, il dit que cet héritage-là, elle peut pas se corrompre. Elle peut pas se souiller. Elle peut pas flétrir. Jésus, il a pas dit aussi, amassez-vous des trésors dans le ciel, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, et où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il y a de quoi qui s'en vient, que Dieu a préparé. Il nous a préparé une place. Mais présentement, on est en train de l'équiper, cette place-là. On peut arriver l'autre bord, puis on a juste une tente. Comme qu'on peut arriver l'autre bord, c'est un château qui nous attend. Il dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Ça veut dire que présentement, vous êtes en train de vous amasser. Dieu a laissé ça à notre discrétion. Il dit, le fin lin qui va nous couvrir l'autre bord, c'est les œuvres justes des saints. Puis la beauté, l'éclat, l'aspect glorieux qu'on va avoir l'autre bord, puis tous les biens, puis la montagne de richesses est en proportion de ce que vous aurez vécu sur la terre pour Dieu. On est en train de s'enrichir où? Je le sais qu'il y en a qui vont arriver l'autre bord, ils vont être comme sur l'aide sociale pour l'éternité. Ils vont être sauvés, mais juste au travers, comme au travers du feu. Ils n'auront rien ramassé. Puis c'est biblique. C'est pour ça que moi, j'en parle, parce que je le sais que c'est vrai. Puis ça va être comme ça. Vous êtes en train de vous préparer. La place est réservée, mais qu'est-ce que vous allez obtenir? Ça dépend de vous. Mais ça, ça ne parle pas de la récompense. Ça parle juste de... Il va y avoir aussi une hiérarchie. Parce qu'il y en a qui vont être gouvernés 10 villes, il y en a qui vont gouverner 5 villes, il y en a qui ne pourront même pas rentrer. Parce que l'autre parabole qui parlait de celui qui n'avait 5 talents, l'autre n'avait 2, l'autre n'avait 1, il était tous les 3 serviteurs de Dieu. Il y en a un qui a eu 10 villes, l'autre n'a eu 4 villes, puis l'autre s'est fait enlever ce que Dieu lui avait donné parce qu'il était méchant et paresseux, puis il ne travaillait pas pour Dieu, il n'a même pas mis l'argent en banque pour avoir au moins un intérêt. Notre maître s'attend à avoir un intérêt. Travaillons pour le Seigneur pour ne pas être trouvés nus lorsqu'il nous... Tu sais, c'est ça qui est important. Mais la hiérarchie... C'est sûr que c'est Dieu qui décide qui va être assis à sa droite, qui va être assis à sa gauche. Jésus a dit, c'est le Père qui décide cela. Mais, comme un exemple, il dit, les légères afflictions du moment présent, les afflictions, c'est les souffrances que vous subissez pour Jésus. Les légères afflictions que vous subissez produit pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Souffrons pour le Seigneur. Acceptons de souffrir pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Investissons notre vie, notre temps, notre énergie. C'est de même qu'on s'accumule un trésor de gloire. C'est l'héritage qu'on va recevoir. Amen. Puis ce qu'on va recevoir, ça ne se corrompt pas ça se ternit pas, puis il n'y a pas de voleur qui va nous enlever ce qu'on va avoir. Une fois qu'on est rendu l'autre bord, on va jouer pleinement de tout ce qu'on a reçu. Pour l'éternité. Amen. Nous avons part à tout ce que Dieu a préparé dans cette vie et dans la vie à venir. Nous avons part. Quand t'es co-héritier, t'as ta part. Vous avez déjà des choses ici reçues de Dieu qui sont des cadeaux que Dieu vous a donnés, vos dons, vos talents, vos biens, votre santé, votre... Tout ce que vous avez, c'est des cadeaux que Dieu vous a donnés. Vous avez déjà une part dans cette vie, puis dans une part dans la vie après. Alors regardez bien ce super de beau passage-là dans 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Je ne l'ai peut-être pas encore dans mes mains comme propriétaire de ce qui est à moi ici. Peut-être un petit, je suis propriétaire de mon char, oui, mais c'est prêté par Dieu, merci Seigneur, mais tout est à nous. Jésus n'a pas dit aussi, heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. S'il y a de quoi qui s'en vient, ce que Jésus, quand il va revenir, il va prendre le contrôle des nations, on l'a vu dans un verset, dans des versets dans Daniel, puis ça va être l'Église, les saints qui vont régner, un royaume éternel qui va régner sur cette terre, puis on va profiter des choses de cette terre pendant un bout de temps. C'est pas pour l'éternité, mais pendant un bout de temps. Après ça, il va y avoir le Satan relâché, puis là, il va y avoir le feu, il va brûler tout. Après ça, il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre. On voit ces étapes-là un peu partout dans des versets. Mais Dieu, quand il va revenir avec tous ses saints, il va mettre son pied à Jérusalem pour détruire l'Antéchrist, puis avec toutes ses armées, puis tout ce qui s'élève contre lui, puis là, il va prendre le contrôle, il va restaurer la planète, puis on va vivre un règne de paix pendant 1000 ans, mais c'est pas vraiment 1000 ans, c'est un règne, parce que le chiffre 1000 qu'il y a là, ils savent pas la valeur du chiffre, mais c'est une grande période de temps qu'on va vivre avec le Christ. Puis ça dit, on va recevoir des trônes, puis on va régner avec le Christ pendant ce 1000 ans-là. Puis ça va être spécial. Puis ça, il dit, on va paître les nations. Il dit, celui qui vaincra va lui aussi paître les nations qu'une verge de fer, comme j'en ai reçu aussi le pouvoir. Jésus, mais ça lui a été donné qu'un jour il va revenir, puis il va régner sur cette terre avec paître les nations avec sa verge de fer, puis il dit à nous aussi, si on est vainqueurs, on va paître les nations qu'une verge de fer avec Jésus. On va être co-héritier de ce que lui a reçu. On va... Combien de villes, je ne sais pas, mais travaillons pour le Seigneur, c'est lui qui tient ça en calcul, moi je ne sais pas. Mais je ne sais pas le Seigneur pour les récompenses, on le sait parce qu'on l'aime. Mais s'il y a des récompenses, on va les prendre. Il n'y a rien contre ça. Je ne m'astinerai pas avec. Comme il ne faut pas s'astiner sur rien d'autre qui est écrit. Pour ceux qui ont des doutes dû au fait qu'ils ne se considèrent pas dignes, ça peut arriver qu'il y en a qui ne se considèrent pas dignes. Moi, j'ai négligé le Seigneur pendant tant de temps. Je ne pense pas que le Seigneur m'aime ou je me sens, ou je suis trop petit dans la vie, j'ai pas. Mais Dieu, lui, ne juge pas avec les critères des yeux humains. Les yeux humains, là, si t'es un gars qui tu gagnes en bas de 50 000 par année, tu comptes même pas. Parce que tu ramènes pas assez d'impôts au gouvernement, c'est comme si t'es pas grand-chose. T'es quasiment même, le gouvernement est haut en train de t'en remettre. Puis c'est les riches qui profitent de tout ce qui est là dans le monde, puis qui ils ont la majorité, la plus grosse pourcentage de l'argent est à une minorité de personnes, puis ils profitent, puis ils ont tout ce qu'ils veulent, puis en tout cas. Mais Dieu, lui, il regarde pas avec ses yeux-là. Les critères de sélection de Dieu ne sont pas basés sur le statut social, mais il est basé sur l'amour qu'on porte envers Jésus. Ça n'a pas rapport si t'es riche ou si t'es pauvre. T'aimes-tu Jésus? Ça, c'est là-dessus que Dieu, c'est ça que Dieu regarde. Dans Jacques 2,5, il dit, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Si vous avez un petit doute, chassez ce doute-là. Dieu vous aime parce que vous l'aimez. Fait qu'au lieu d'avoir des doutes, remplacez ça par de l'amour pour Jésus. Aimez Jésus. Amen. Aimons Jésus. Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Aimez-vous Dieu, aimez-vous Jésus, aimez-vous sa parole, aimez-vous ceux qui sont issus de Dieu, son peuple, ses frères et sœurs que Jésus aime, puis il a donné sa vie pour chacune de ses brebis, puis il nous aime tout le monde, puis il nous serre toutes dans ses bras. Il nous le dit qu'il nous aime dans plein de passages, puis on le vit, on est content, on comprend les choses, on est encore là, puis on fait tout ce qui est en notre capacité de pouvoir lui remettre, lui donner la gloire qui lui revient. Mais il dit, Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume. Nous sommes les héritiers. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Amen. Maintenant, que pouvons-nous faire? Sinon, de rendre gloire à Dieu pour qu'il nous rende capable d'avoir part à son héritage, de nous avoir rendu capable d'avoir part à son héritage. Rendons gloire à Dieu, puis remercions le Seigneur de nous avoir rendu capable d'avoir part à son héritage. Merci Seigneur, parce que c'était impossible pour nous d'avoir quoi que ce soit. On était privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de Jésus, tout nous est ouvert. Amen. Dans Colossiens 1,12, « Rendez grâce au Père qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ça s'en vient, frères et sœurs. Persévérons. Ça va être grandiose, mais qu'on soit rendu là. En attendant, prions, luttons, souffrons, bientôt nous aurons la victoire. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour tes paroles qui sont là, qui nous fortifient dans la foi, puis de s'attendre. Premièrement, on voit ta grandeur, ton amour pour nous qui ne méritons rien. On veut te remercier, Seigneur, de nous avoir rendu capables d'avoir un part à ton héritage. Dans cela, on voit comment est-ce que tu es généreux, bon, compatissant. On veut te remercier. On veut te rendre la gloire que tu reviens. On veut te servir. On veut apprendre à t'aimer et à te le montrer en obéissant à ce que tu nous demandes. Conduis-nous, Seigneur. On remet nos ventres à tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.